Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Sens de l'Immo avec notre partenaire Procivis. On est ravis de vous accueillir ici en direct du CIMI édition 2022. En direct du Palais des Congrès, Porte Maillot à Paris. On va parler promotion face aux nouveaux défis de l'économie circulaire. Comment utiliser les matériaux biosourcés, béton bas carbone, ossature bois, etc. Alors vous le savez, le secteur du bâtiment qui représente 43% des consommations énergétiques annuelles françaises, mais également qui génère 23% des émissions de gaz à effet de serre. C'est important, trop, et c'est urgent d'agir, de décarboner bien évidemment. La décarbonation, elle passe par la transformation de notre manière de construire pour éviter le gaspillage de ressources humaines comme de matériaux. Mais comme l'énergie qu'on ne consomme pas, finalement, les meilleurs matériaux ne seraient-ils pas ceux qu'on ne consomme pas non plus et qu'on arrive à réutiliser ou à recycler? Le monde de la promotion est-il prêt face aux nouveaux défis de cette économie circulaire, au réemploi, à l'utilisation de nouveaux matériaux biosourcés qui ne sont pas d'ailleurs forcément moins chers? Autant de questions qu'on va poser à nos experts du jour. On est ravis d'accueillir Yannick Borde. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Président de Procivis, bienvenue à vous. On est en compagnie également de Zélie Perrin. Bonjour Zélie.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet responsable communication du booster du réemploi qu'on va redécouvrir pour ceux qui ne connaissent pas encore le booster du réemploi. Et enfin, Jean-Marc Beignet. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Vous êtes directeur général de Laval Mayenne Aménagement et notre voisin de stand sur ce CIMI. On est ravis de vous accueillir. On va commencer par poser les bases du sujet justement sur les défis de la promotion. Yannick Borde, ils sont connus, ils sont là. On n'en a jamais autant eu, je dirais, que cette année, avec une espèce d'anus horribilis d'ailleurs qui se succède puisque la construction neuve en tout cas est un petit peu en péril. Est-ce qu'on parle, en plus de tous les sujets qu'on a aujourd'hui, d'une économie circulaire, de réutilisation des matériaux?
Alors, je pense que le secteur de la promotion immobilière a depuis déjà pas mal de temps intégré la nécessité de s'engager sur cette voie-là. C'est vrai qu'on a une conjoncture aujourd'hui extrêmement compliquée avec une offre qui est très très difficile aujourd'hui à faire émerger, très difficile de sortir les programmes, et quelque chose qui est assez nouveau parce qu'on a rarement connu les deux phénomènes de décroissance de l'offre et de la demande de façon aussi brutale. Moi, ça fait 30 ans que je fais ce secteur-là, on a connu des crises, mais c'était l'un ou l'autre. Et là, depuis le mois de septembre, hier j'étais sur plusieurs séances, tout le monde emploie le mot effondrement de la demande, avec une grande partie de la demande qui a disparu. Donc on est dans un moment où l'équation des opérateurs sur des opérations, je veux dire, standard et classique, n'est pas nécessairement facile. Et donc, on sait que l'innovation ou l'arrivée de nouveaux concepts ou repenser un peu les modes de construction, c'est en général pas quelque chose, en tout cas pas au début, qui est nécessairement sur une performance économique meilleure, ou en tout cas acceptable par rapport à celle qu'on a connue. Mais en tout cas, la profession immobilière est engagée quand même depuis un certain temps. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'opérations. Enfin, chaque réseau, chaque grand promoteur a déjà ses opérations en terre crue, en matériaux biosourcés. Après, il va falloir qu'on trouve le bon rythme et le bon dosage sur chaque programme, parce que l'équation économique, quand même, aujourd'hui, elle est très, très malmenée. Et on l'a dit à plusieurs reprises sur ce plateau, quand la loi climat et résilience est arrivée, tout le monde, enfin, il n'y a pas du tout de remise en cause du contenu de la loi climat et résilience sur tous les facteurs. On parle de celui-là, on pourrait parler de l'artificialisation nette, on pourrait parler des DPE, etc.
Donc OK pour le constat, mais
on y va.
Comment on fait ?
Mais comment on fait et comment on fait et à quel rythme ? Parce qu'en même temps, il va bien falloir quand même continuer de produire un peu de logement et d'en sortir dans des conditions de prix qui sont acceptables pour celles et ceux qui ont besoin d'acheter.
Bien évidemment.
Donc un moment compliqué.
On passe la parole justement à la maîtrise d'ouvrage du côté de Jean-Marie Meignier, directeur général Laval Mayenne Aménagement. Ces contraintes dont on parlait à l'instant avec Yannick Borde, vous les connaissez, vous les subissez aussi. C'est vrai qu'on est dans un moment, on a l'impression, un peu de crise en ce moment. Comment vous observez la situation?
Oui, comme pour Yannick Borde, le constat il est largement partagé. L'ambition est là également en lien avec les promoteurs immobiliers. Alors déjà, le constat s'appuie sur le fait qu'il faut faire avec le déjà là. Ça, c'est la première priorité pour nous. Plutôt que d'envisager parfois des démolitions, c'est comment on utilise au mieux les bâtiments existants sur nos opérations d'aménagement pour envisager plutôt la réhabilitation avant la déconstruction, même si parfois elle est nécessaire. Et dans ce cas-là, à travers ces matériaux de déconstruction, comment on peut les réutiliser sur place, sur des matériaux pour les chaussées, du remblai éventuellement, ou des... Bon, en tout cas, de faire en sorte qu'on évite de déplacer ces matériaux sur des sites de dépôt et les utiliser sur place. En tout cas, nous, sur nos opérations d'aménagement, c'est ce qu'on promeut en lien, bien évidemment, avec les promoteurs avec lesquels nous travaillons.
Ouais, on va voir ça en, avec un exemple dans quelques instants sur votre territoire. Zélie Perrin, chef de projet et responsable communication du booster du réemploi. Rappelez-nous, tiens, ce que fait le booster du réemploi.
Alors, le booster du réemploi, c'est un programme d'action collective. Donc, aujourd'hui, c'est une cinquantaine de maîtres d'ouvrage publics, privés, des aménageurs aussi d'ailleurs et des entreprises qui sont engagés dans une démarche de prescription de matériaux de réemploi sur leurs opérations de construction et de rénovation. Et nous, c'est au sein du cabinet A4MT qui porte ce programme, un programme d'accompagnement sur la durée, sur 3 ans, sur un certain nombre de projets chaque année sur lesquels on va venir aider les maîtres d'ouvrage et leurs équipes de maîtrise d'œuvre à prescrire et à simplifier, à dérisquer la prescription des matériaux de réemploi. Quels matériaux on réutilise, comment on les utilise, par qui on se fait accompagner, bureau de contrôle, assurance, AMO.
Oui.
Et puis de la formation continue aussi, des retours d'expérience, du partage de retours d'expérience pour progresser collectivement sur ces sujets-là.
Ouais, il y a encore une réticence, des freins justement à réemployer. On a l'impression que c'est des matériaux usagés, alors que pas du tout.
Enfin, il y a effectivement des matériaux qui peuvent être réutilisés, qui sont de très bonne qualité. Aujourd'hui, le roulement, par exemple, sur de l'immobilier tertiaire, parfois on a des bureaux qui sont rénovés tous les 3 ans, tous les 6 ans. C'est des matériaux qui ont des durées de vie qui sont bien supérieures à celles-là. Donc il y a effectivement des matériaux de très bonne qualité, mais il y a un très gros travail de sensibilisation et d'essayer de casser un peu ces a priori par rapport effectivement à ce que peut être du réemploi sur des projets tertiaires et de logements aussi.
Bon, Yannick Borne, on réutilise des matériaux, c'est quelque chose que vous regardez.
Il y a deux choses qu'il faut reprendre. Je reprends le propos de Jean-Marc Beignot au démarrage sur la transformation des bâtis existants, parce que c'est vrai que le métier de la promotion, c'est souvent d'abord un démolisseur et puis après une construction neuve. Et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qui est en train de changer. Ça change par contre doucement, parce que d'abord, très clairement, même si les perturbations des coûts de construction de ces derniers mois re-questionnent un peu tout ça, c'est quand même au démarrage toujours un petit peu plus simple. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est un petit peu plus simple d'estimer un coût de construction neuve. C'est moins vrai ces derniers temps, mais quand même, que de savoir exactement la surprise ou la mauvaise surprise qu'on aura quand on va commencer à déshabiller un bâtiment, le restructurer, ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. Et le coût n'est pas en général hyper, hyper compétitif par rapport à une construction neuve. Mais on voit bien quand même que d'abord, il y a aussi aujourd'hui une volonté de préserver et de requalifier un certain nombre de bâtis. Donc ça fait partie des orientations, en tout cas sur lesquelles le réseau est en train de travailler. J'ai un exemple d'un de mes collègues en tête sur l'agglomération de Rouen, par exemple. Par contre, on se heurte à quelque chose, c'est que nous qui sommes notamment des producteurs de logements plutôt imaginés comme neufs,
oui,
même si on restructure très fortement un bâti existant, qu'on le désosse, en gros, il reste ce qui permet, d'un point de vue fiscal, de rester dans d'être dans le logement neuf. Pour le client, on a encore du mal à lui faire franchir le pas que c'est vraiment un logement complètement neuf. Donc voilà, il y a toute cette... Nous, on a besoin de prendre cette culture de la restructuration du bâti existant. On a besoin d'être sécurisé un peu plus, très en amont, ce qui est assez compliqué, sur le coût que ça va générer de le transformer en logement ou de le requalifier complètement en logement, si c'est quelque chose qui était du logement, mais qu'on met au goût du jour. Et puis l'étape suivante, qui est aussi une étape que je comprends bien qu'il n'y a que le promoteur peut-être qui soit le plus sensibilisé à ça, c'est de dire commercialement comment ça va se passer. Le dossier dont je parle à Rouen, c'est une tour HLM au milieu de logements individuels. Donc notre collègue s'était dit, j'ai la chance d'avoir un bâti que je ne pourrais pas rebâtir au niveau du PLU, donc autant le transformer en logement neuf, donc je le désosse et j'en fais quelque chose. Et commercialement, c'est assez compliqué. Voilà. Il aurait démoli tout ça et reconstruit quelque chose de complètement neuf. Ça serait peut-être commercialement
plus simple.
Oui. Donc il y a toute cette évolution-là aussi à faire naître.
Jean-Marc Beignet, vous avez des exemples, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on va bâtir plutôt la ville sur la ville. On a cette injonction où on n'a pas le droit, plus le droit. Enfin, en tout cas, on est contraint sur l'étalement urbain. Du coup, vous avez ce genre de projet également ?
Oui, alors avant, peut-être pour compléter le propos de Yannick Borde, il y a une attention très forte aussi sur le maintien du confort du logement, et aussi bien sur l'acoustique, et parfois de maintenir des structures en place ne permet pas d'assurer ce confort acoustique. Il y a aussi la question de l'extension de l'espace extérieur attenant. Et donc, tout ceci renvoie à la nécessité d'avoir des compétences, vous l'évoquiez tout à l'heure, dans les maîtrises d'œuvre pour bien appréhender la façon dont on peut réhabiliter et comment on peut réemployer. Donc ça, c'était le premier propos sur votre question. Effectivement, nous sommes très attentifs à reconstruire la ville sur elle-même. Donc c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage que nous pouvons proposer aux élus des collectivités pour appuyer des projets de renouvellement urbain, de redensification de centre-bourg et de centre-ville. Et donc ça, c'est vrai que c'est toute une démarche d'accompagnement, d'acculturation, puisque bien souvent, il est toujours plus facile de partir d'une page blanche. Et ça renvoie aussi à des compétences sur non seulement la déconstruction, mais la façon dont on peut aussi préserver la biodiversité, puisque ces espaces souvent déjà existants en centre-ville sont aussi parfois source de richesse pour la biodiversité. Et ça oblige à repenser aussi la façon dont on refabrique la ville sur elle-même avec des procédures qui sont aussi parfois extrêmement longues, finalement peut-être beaucoup plus longues que lorsque nous étions dans l'étalement urbain, peut-être beaucoup plus simple. Et ça oblige forcément à repenser les modèles.
Ça force à être plus créatif, plus imaginatif.
Exactement.
Aussi.
Ouais.
Zélie Perrin, justement, c'est intéressant d'avoir regarde Yannick Borde, Jean-Marc Ménier, sur ce réemploi. On sent bien la résistance au changement, qui n'est pas forcément d'ailleurs celle des promoteurs, mais plus après des clients finaux, finalement, de se dire pas forcément envie.
Effectivement, le sujet du client final, de l'investisseur ou du preneur, c'est un sujet qui nous est remonté extrêmement souvent. Les promoteurs sont parfois ont très envie d'y aller, mais ils ont cette peur de comment est-ce que je vais commercialiser, comment est-ce que je vais présenter ça vis-à-vis de mes preneurs s'ils ne sont pas au courant. Donc on fait un vrai sujet, on fait un vrai travail sur l'acceptabilité, effectivement, essayer de favoriser cette acceptabilité. Il y a aussi un vrai besoin de rassurer. Vous parliez des sujets techniques, de confort, etc. Il y a un vrai besoin de rassurer sur les performances techniques que les matériaux peuvent conserver. Et ça, on fait vraiment ce travail-là aussi.
On est d'accord que ça sera ISO par rapport à du neuf.
Bah c'est le but, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que, ou alors si un matériau a besoin est dégradé sur sa performance, on va lui donner un usage différent qui va permettre de conserver effectivement et de rester dans tous les cadres et les normes qui sont aujourd'hui celles du bâtiment. Donc ça, effectivement, c'est un travail qu'on fait dans le cadre de l'accompagnement des maîtres d'ouvrage, bien sûr.
Est-ce que, néanmoins, c'est une tendance qui prend de l'ampleur, qui se développe post-crise sanitaire, post-crise de l'énergie? Est-ce qu'il y a des chiffres à nous communiquer pour cette année 2022 ou des tendances?
Oui, bien sûr. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine de structures, maîtrises d'ouvrage et entreprises qui se font accompagner. On constate qu'on est environ sur 15% du marché, 70% du top 20 des promoteurs qui ont cet engagement-là sur des projets en réemploi. Aujourd'hui, il y a plusieurs raisons qui les poussent. Il y a effectivement ce sujet de la crise, le prix des matériaux, les délais de livraison. En fait, parfois, on se rend compte qu'en réemploi, on arrive à récupérer beaucoup plus rapidement des matériaux que si on doit aller les commander en neuf. Et puis, il y a un vrai sujet de besoin de décarbonation qui est aussi poussé par la réglementation. Enfin, je suis sûre que vous en avez parlé tout l'après-midi, la RE 2020, l'obligation de faire un diagnostic PEMD, la responsabilité élargie des producteurs sur les produits de construction avec un objectif de 5% des matériaux issus de la déconstruction qui doivent être réemployés à échéance 2027. Donc il y a vraiment aussi un sujet réglementaire qui pousse et tous les acteurs sentent bien que s'ils veulent se mettre à la page, c'est maintenant qu'ils doivent s'y mettre parce qu'effectivement la transformation des pratiques, ça prend un peu de temps. Donc,
Alors Yannick Borde connaît bien ça par cœur, bien sûr. Toutes ces réglementations, c'est énorme hein, cette inflation. Et pourtant, c'est aussi une demande du public d'avoir plus de matériaux biosourcés, géosourcés.
Alors la difficulté, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais qui vient d'être repris, c'est qu'il y a, je pense, dans la profession, absolument aucune contestation de tout ce qui figure dans la loi climat résilience, sur toutes les ambitions qui sont dedans. Et ce qui s'est passé ces derniers mois renforce en plus, à mon avis, l'intention et l'envie d'y aller sans aucune difficulté. Après, c'est une question de temporalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait aussi qu'on est rendu, nous, à des niveaux de prix qui sont difficilement réajustables à la hausse. Les clients ont sans doute quelques sensibilités encore à voir, mais ils sont aussi très demandeurs de la performance énergétique, de l'empreinte environnementale du bâti, tout ça. Tout le monde est très sensibilisé à ça et tout le monde a, je pense, envie de transformer tout ça et de répondre à tout ça. Voilà, après, c'est un moment où il faut que la chaîne et le circuit économique, tout ça, se restabilise. Pour faire attention aux fausses bonnes idées qui pourraient penser qu'à chaque fois qu'on réemploie quelque chose qui est sur site, c'est la meilleure économie. C'est peut-être pas nécessairement le cas. Voilà, ça mérite peut-être de pas avoir trop de raccourcis. Mais on a une stabilisation financière qui doit encore être travaillée. Après tout, l'enjeu, il est plutôt passionnant parce que comme on sait qu'on est devant ces échéances-là et que sincèrement, tout le monde a envie d'y aller, c'est, On a eu l'occasion d'échanger ensemble sur, par exemple, les diagnostics énergétiques. On trouve que les FEG, c'est des échéances trop courtes. Mais moi, je fais partie de ceux qui ne demandent pas le rallonge de délai. Je fais partie de ceux qui disent qu'il faut y aller. Et puis, on fera un point à un moment donné. Si on n'y est pas, on verra ce qu'on fait. Mmh. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il faut vraiment y aller. Il y aura des complexités.
On ne repousse pas a priori, hein,
non,
ce qu'on nous dit.
Non, il ne faut pas le repousser. Par contre, il faut comprendre la complexité, que ça ne peut pas être non plus une solution unique partout identique. J'aurais moins de réticence, en tout cas je serais plus optimiste en termes de calendrier pour faire sur la question des matériaux biosourcés, parce que dans la construction neuve, on les emploie déjà. Mmh. Donc là, on commence à avoir quand même des retours d'expérience, on sait ce qui passe, on sait ce qui marche. Voilà, donc la réaction du client, elle est plutôt très positive et très favorable. Et c'est même une exigence aujourd'hui d'être sur des étiquettes E2C2, sur des empreintes carbone et consommation énergétique. Sur des programmes neufs, ça me paraît être aujourd'hui la chance de travailler sur un projet sur le territoire de Laval-Aglo, sur la ZAC que pilote la SEM, Laval Aménagement, que dirige Jean-Marc Beignet. On va être sur cette ambition-là.
Justement, on va parler projet un petit peu avec vous. Il y a beaucoup de projets, hein, ça bouge beaucoup en Mayenne, du côté de Laval. C'est toute l'ambition aussi de changer le territoire tout en ayant des nouveaux lieux aussi emblématiques qui se transforment, comme ce tiers-lieu, Level, à Laval. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, on va au-delà du logement, bien évidemment, l'activité économique est également pleinement concernée par ces enjeux. Et nous avons la chance d'accompagner la SAS Level, qui est un tiers-lieu qui va prendre place sur une zone d'activité principale, non loin de la gare de Laval, sur un ancien site Bonassabla, donc une ancienne friche industrielle qui était vide depuis des années. Et donc nous accompagnons cette structure qui va accueillir des SIC, des SCOP, donc un certain nombre d'entreprises liées au monde de l'économie sociale et solidaire. Une CUMA également, donc pour une CUMA, donc une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Donc on voit aussi la mixité des usages entre l'agriculture, donc on est sur un département rural en Mayenne, mais aussi des activités liées au transport, liées à l'activité numérique, donc un ensemble qui va aussi concentrer de la restauration, de la culture. Donc on est vraiment sur un tiers-lieu qui sera idéalement placé et qui va recevoir des activités de l'ESS. Et donc, on est sur un site qui sera complètement rénové. On garde la structure métallique. Mmh. On réemploie au maximum les surfaces d'enrobés pour finalement que ce site devienne un nouveau lieu d'activité pour demain.
Ouais, et puis un marqueur aussi pour le territoire. Tiers-lieu ESS, effectivement, on peut lire sur le site level.coop, un vieux dit coopératif, inclusif, ouvert. On va trouver l'entrepreneuriat, de la culture, de la formation, le handicap, l'agriculture. Voilà. Et tout ça, effectivement, dans l'économie du projet. Comment vous faites aujourd'hui ? Comment c'est financé ?
Alors, donc, ça va peut-être faire le lien, mais vous verrez pour ceux qui pourront aller sur le site qu'ils sont en recherche aussi de partenaires financiers à travers des plateformes de crowdfunding pour aider l'émergence de ce dossier. Alors peut-être pour parler en amont, puisque les collectivités aussi sont confrontées à ce type de problématiques, d'équilibre économique. Ce dossier va faire l'objet d'une aide de l'État à travers le dossier Fonds Friche. Donc nous accompagnons aussi, nous, les porteurs de projets, qu'ils soient privés ou publics, dans la constitution de ce dossier, en vue d'établir des dossiers qui permettent de montrer que sans aide de l'État ou de la région, ces modèles ne sont pas tenables. Et donc à travers ces aides financières, ces subventions, nous atteignons du coup un modèle qui permet au dossier de sortir.
D'accord. Est-ce que justement vous utilisez l'économie circulaire ou le réemploi pour bâtir ce nouveau tiers-lieu ?
Ces activités sont vraiment aussi très en lien aussi avec cette activité, cette économie sociale et solidaire finalement. Ça permet peut-être de faire le rebond aussi sur des porteurs de projets que nous accompagnons aussi de plus en plus. Et je pense que Yannick Borde aussi pourrait témoigner sur cet aspect-là, à travers aussi des projets de recyclerie, de matériothèque. Parce qu'au-delà de cette ambition, il faut aussi trouver des acteurs locaux qui recyclent des menuiseries, qui accueillent un certain nombre de matériaux de déconstruction pour, à travers cette plateforme, aussi irriguer l'ensemble du territoire, toujours dans le souhait de pouvoir offrir ou de permettre ces matériaux dans des circuits extrêmement courts.
Zélie Perrin, c'est vrai que c'est une belle initiative, vous en connaissez d'autres ?
Oui, c'est une très belle initiative. Il y a énormément de territoires qui s'engagent sur des sujets, notamment de construction de plateformes de stockage, plateformes logistiques. C'est aussi un des sujets qu'on travaille. À Lyon, il y a l'exemple du projet Station R, par exemple, qui est un projet effectivement qui est dans les depuis quelques années en train de se développer pour cette création d'une plateforme physique de stockage de matériaux. Il y a un vrai sujet, on parlait des coûts tout à l'heure, sur la structuration des filières. Aujourd'hui, une des raisons principales pour lesquelles on a du mal à estimer le coût que va représenter un projet qui intègre du réemploi, c'est qu'on ne sait pas forcément quand est-ce que les matériaux sont disponibles, combien est-ce qu'ils vont coûter, d'où est-ce qu'on va devoir les faire venir. Et ça veut vraiment dire qu'il y a un vrai sujet sur le fait qu'il y a besoin de structurer des filières qui vont venir récupérer des matériaux, qui vont les reconditionner, qui vont les regarantir et qui vont être capables de proposer une offre massifiée avec un prix qu'on peut connaître à l'avance. Et ça, c'est vraiment un vrai sujet pour pouvoir développer ça.
Aujourd'hui, on a les matériaux, on n'a pas encore une banque tout à fait banque de matériaux tout à fait standardisée.
Il y a un besoin d'un certain modèle un peu plus industrialisé du réemploi finalement, qui permette, tout comme pour le neuf, d'avoir des matériaux en quantité, en qualité et avec un prix qu'on peut connaître à l'avance pour effectivement s'y retrouver financièrement. Mmh.
C'est ça qui va déclencher aussi sûrement le décollage de tout ce réemploi. Sur les projets justement comme ça de tiers-lieux, vous connaissez Level à Laval, Yannick Bord.
Alors moi je connais un peu parce que je sévis un peu sur ce territoire là aussi. Ce qui est intéressant, moi j'ai eu l'occasion avec une autre casquette de découvrir à un moment donné ce projet là, et ça illustre un peu ce qu'on disait au début, c'est à dire que on sent quand même chez beaucoup de personnes aujourd'hui, d'entrepreneurs ou d'acteurs, l'envie de tester des choses et d'y aller. Après peut-être qu'on a une culture chez nous qui est la culture de la honte quand on échoue, et c'est un petit peu dommage parce qu'il y aura de la casse, c'est-à-dire à un moment donné, mais Jean-Marc l'a aussi dit, il faut aussi que les collectivités appuient des sujets qui sont quasi impossibles à sortir complètement aujourd'hui avec uniquement un regard purement économique, donc il faut à un moment donné de l'accompagnement public. C'est une vraie décision politique du territoire de s'engouffrer là-dessus, donc voilà, je pense que c'est des dossiers compliqués, c'est des dossiers qu'on va essayer de modéliser un peu, c'est-à-dire à un moment donné faudra débriefer sur les différentes expériences qui sont tentées, et puis on corrigera et on essaiera. Alors, faudra pas tomber dans l'industrialisation pure, parce que sinon, c'est revenir un peu en arrière par rapport au concept, mais il faudra quand même, à un moment donné, qu'on ait des espèces d'opérations test dont on sait qu'avec quelques ajustements, parce que c'est quasi impossible en construction de reproduire deux fois le même immeuble ou le même bâti, c'est de faire en sorte que ces opérations test nous servent de modèle et de limitation du risque dans les opérations à venir. C'est un petit peu ça le danger aujourd'hui, dans un contexte en plus compliqué.
C'est-à-dire à partir d'une première expérience réussie, un prototype, on pourrait dupliquer sans standardiser.
Sans standardiser, mais en retenant quand même un peu les règles de départ, c'est-à-dire les codes de bonne conduite et les choses qui sont quand même... le fait qu'il y ait de l'argent public ou du fonds friche, moi, je l'ai dit à plusieurs reprises sur cette antenne, je suis un grand partisan du fonds friche parce que je pense que c'est un des meilleurs... sujet pour lutter contre l'étalement urbain, de pouvoir reconquérir les friches, mais ça, la dépollution...
Mais ça coûte, hein,
ça coûte en dépollution, ça coûte en déconstruction. Alors si on valorise, effectivement, aujourd'hui, quand on, en tant que promoteur, de façon assez basique, quand on regarde un foncier, peut-être qu'on n'est pas encore complètement performant en disant « j'ai un devis de démolition, mais mon devis de démolition, finalement, je peux peut-être le compresser un peu avec une valorisation. » Donc ça, c'est l'organisation de la filière qui peut nous aider là-dessus, parce que si nous, c'est pas nous, alors peut-être que les démolisseurs vont rentrer dans ce jeu-là progressivement, et ils rentrent d'ailleurs parce qu'on commence à voir des lignes sur certains devis d'économie liés au réemploi, donc c'est que tout le monde s'y met. Mais voilà, c'est cette approche-là qu'il faut... pas standardisé parce que ce ne sera pas possible, c'est un peu le problème de notre secteur d'activité, oui, mais sur lequel les bonnes pratiques commencent à devenir des références et presque des modèles. Quoi.
C'est intéressant ce que dit Yann Bourne, c'est-à-dire que finalement, ces sites, hein, parce qu'on va devoir de toute façon les utiliser, donc utilisation du fonds friche, utilisation des ressources qui sont déjà présentes, est-ce qu'il y a d'autres exemples on va baigner concernant Laval et ses environs.
Oui, je peux vous citer un autre exemple d'une opération que nous suivons pour le compte de Laval Agglomération sur une commune de l'agglomération qui s'appelle Port-Briey. Une très belle friche industrielle, une ancienne fonderie avec un passé industriel de 400 ans.
Oui. Donc,
comme on peut l'imaginer, avec ses toitures en chêne, une architecture très, très significative et très singulière. Au bord d'un lac. On peut imaginer le site qui forcément a beaucoup d'atouts, mais qui présente forcément les contraintes d'un passé industriel avec beaucoup de dépollution, du désamiantage envisagé. Donc comment on arrive à trouver un modèle économique? Donc là, on commence à travailler avec la collectivité avec l'appui d'un groupement de maîtrise d'œuvre, et ça renvoie aussi à la question des compétences, où finalement aujourd'hui les compétences sont de plus en plus élargies au-delà d'un bureau d'études techniques, un cabinet d'architecture ou de paysage, on essaie d'avoir des compétences aussi sur les réemplois, sur la façon dont on va pouvoir mixer les usages à travers, bien évidemment, l'activité économique, la culture, le logement, pour trouver, en fait, à travers une forme de péréquation, finalement, réussir à sortir cette opération, mais avec le déjà là et l'existant. Et pour revenir à la question de la dépollution, peut-être que parfois, sur certains secteurs, mais il faut laisser en place et renaturer, revégétaliser, ou laisser la nature reprendre ses droits, parce que les coûts de dépollution sont parfois tellement importants, et même avec l'appui de l'aide publique, on n'arrive pas à équilibrer.
Ça sera l'équation impossible. En revanche, on a vraiment l'impression que c'est un mouvement, c'est ça qui prend son essor actuellement. On en parle, je crois, pratiquement pas. Enfin, je parle sous votre contrôle, Zélie, il y a encore quelques années. Et là, c'est vrai que ça bruisse et tout le monde est en train de s'emparer du sujet.
Oui, tout le monde s'empare du sujet. C'est vrai qu'au début, au début, on a beaucoup travaillé avec des maîtres d'ouvrage privés, voilà, ceux qu'on connaissait déjà. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs publics effectivement, qui s'engagent, et une diversité d'acteurs, des aménageurs aussi, des bailleurs sociaux y compris, qui rentrent dans cette démarche. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'ils ont un parc aussi avec des très gros sujets effectivement de restructuration, beaucoup de matériaux. Et puis des entreprises aussi qui font de la maintenance, qui s'intéressent à ces sujets. Enfin, voilà, on voit qu'il y a vraiment une diversité de plus en plus importante d'acteurs qui s'adressent à nous parce qu'ils veulent aller dans ce sens-là. Donc voilà, nous en tout cas, on sent vraiment cette volonté. Ça reste, il y a une mise en œuvre encore, vraiment une mise en action qui est en cours, mais en tout cas, il y a une communauté grandissante d'acteurs.
Voilà, volonté des acteurs, volonté des maîtrises d'ouvrage, des aménageurs et des promoteurs. Je pense que tout le monde est aligné, Yannick Bord, finalement.
Oui, tout le monde est aligné de façon.
Le constat, c'est clair.
Non, mais oui, je pense que tout le monde est aligné. D'ailleurs, il y a... La profession, c'est avec le réemploi, avec les matériaux biosourcés, avec la construction hors site, qui est un autre mode un peu innovant. Tout le monde essaye de répondre aujourd'hui à toutes ces ambitions environnementales et de faire en sorte que l'empreinte que l'on laisse soit moins dégradée que celle qu'on a produite jusqu'à présent. Voilà. Après, c'est un paquebot, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire le demi-tour facilement et il va falloir y aller progressivement. On ne va pas redire tout ce qu'on a dit, mais je pense que c'est ça un petit peu le calendrier qu'il faut tous se donner et surtout que tous les exemples qui tournent soient bien mis en avant pour démontrer que ça peut marcher, quoi. Et que nous, en tant qu'acteurs, maîtres d'ouvrage, et puis nos clients derrière, pour ceux dont c'est aussi la finalité de vendre leur projet, soient aussi rassurés sur la piste qui est la ligne qui est prise.
Et voilà, l'essor est là en tout cas, les volontés, certains projets, en tout cas on s'en fait l'écho sur Radio Immo, on est ravis. Et on vous remercie, un grand merci à nos experts du jour, Yannick Bord, le président de Procivis, Jean-Marc Meignet, le directeur général de Laval Mayenne Aménagement, et Zélie Perrin, chef de projet responsable communication du booster du réemploi qu'on connaît mieux désormais. Merci Zélie, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Sens de l'Immobilier.
Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis, à retrouver sur les sites de Radio Immo et Radio Territoria.